La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas, mais c'est un produit de l'homme, il s'y projette, s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. C'est par cette pensée de Jean-Paul Sartre que votre émission Interligne prend place sur la 105.5 MHz. C'est entre les lignes du nom de « Mais pas besoin d'un microscope pour y voir ». Interligne met en vitrine les cultures, les nouvelles tendances et les faits marquants de la société. Votre émission Interligne donne la parole au public et les publie à la République. Nous recevrons dans le cadre de Soir au village M. Daniel Livna Bayan, secrétaire général de l'association TPE Tout Pourri Parlons-en, et M. Wang, président de la communauté Tout Pourri de Ourotiédé et Zilan. Ils nous parleront de la culture Tout Pourri. Dans Tape à l'œil, nous nous intéressons au phénomène de l'argot. Et dans Vie de ton sac, les ménagères viendront vider leurs sacs qui déjà sont vides du fait de la hausse du prix des denrées sur le marché. Interligne, c'est Soir au village, Tape à l'œil et Vie de ton sac. Bienvenue à tous. Au village de ce jour nous conduit dans la culture Tout Pourri, un peuple situé entre le Cameroun et le Tchad. Au Cameroun, une partie occupe le maillot Danaï et une autre le maillot Kani. Qui est l'homme Tout Pourri? Qu'est-ce qui fait sa culture et comment est organisée l'association TPE ici dans l'extrême nord? Des réponses dans un instant avec M. Daniel Livna Bayan, secrétaire général de l'association TPE. Entendez, Tout Pourri, parlons-en.
Je suis Bayan Livna Daniel, secrétaire général du groupe TPE, disons Tout Pourri Parlons-en, Extrême Nord, et responsable en charge des projets du bureau national.
Merci monsieur. Dites-nous donc, qui sont les tout pourris? Qui est l'homme tout pourri?
Le peuple tout pourri, comme tout peuple d'Afrique, est celui-là qui vit à cheval entre deux pays, dit le Tchad et le Cameroun. Le peuple tout pourri est exactement localisé et localisable au sud-ouest du Tchad et au nord-ouest du Cameroun. C'est un peuple qui, selon l'historicité, vit autour du mont Ili depuis des lustres. Et la légende dirait même que ce peuple a un lien de fraternité avec le peuple Mundan. Donc, depuis lors et les processus de migration, le peuple tout pourri se retrouve un peu partout dissimé dans le territoire national et international camerounais.
L'on constate généralement un fait dénominateur marquant dans presque toutes les communautés, dans presque toutes les cultures, que ce soit Mafa, Mufu, Mundan et autres. Le soir au village, c'est très souvent au clair de la lune. Comment ça se passe chez les tout pourris? Qu'est-ce qui se fait et se dit le soir au clair de la lune?
Ok, merci beaucoup. Vous savez, le peuple tout pourri, comme vous venez de le dire, n'est pas une entité à part de toutes les sociétés africaines. Alors, dans les cultures africaines, tout comme dans la culture tout pourri, il y a des séances de jeux, de conseils ou de divertissements qui se font généralement au clair de la lune, pendant les périodes bien déterminées. Nous avons des différents jeux, à l'exemple des jeux, les jeux à pions, que le tout pourri appelle gagne, qui se présentent sous plusieurs formes. avons le tigao gigain, c'est-à-dire on lance la pierre et on l'attrape en prenant d'autres. Nous avons le sé gigain, qui est une sorte de dawalé français et autres. Et nous avons aussi d'autres jeux, avec des pions aussi. Nous avons appelé cela le jeu de raisonnement, le jeu mathématique de stratégie. On appelle ça pont. En tout pourri, pont, je joue généralement entre les hommes, alors que les autres, ça peut être mixte et autre. Mais le pont, c'est-à-dire ce jeu de stratège, se fait uniquement entre les hommes, hein, deux parties. Donc, c'est un peu ça. Là, on peut le faire au clair de la lune ou bien diurne, ça ne dérange pas. Nous avons aussi la lutte traditionnelle qui, en réalité, est un jeu à la base. Voyez-vous? Les jeunes généralement, ce sont les jeunes qui le font au clair de la lune. Ces jeunes, après avoir mangé autour de 19h-20h, se retrouvent tous ensemble, peut-être dans un quartier, dans un village, au lieu un peu plus sableux, et commencent, se jettent à ces activités en prélude, la préparation, la fête du coq. Parce que pendant la fête du coq, il y a aussi cette séance de jeu qui est la lutte traditionnelle. Et aussi un jeu, je ne sais pas comment est-ce que je vais le qualifier en langue française, mais en tout pourri, c'est le tum-tum, qui est un jeu généralement pratiqué par les plus petits. Vous voyez, les plus petits qui se rassemblent à travers des mélodies et des touchés, les pieds qui sont exposés. Nous avons celui qui exécute la mélodie et tout. Et pourvu, il y a toujours un vainqueur. Il y a toujours un vainqueur à l'issue de ça. Et pour couronner le tout, au clair de la lune, l'homme tout pourri a cette activité phare qui marque les cœurs. C'est-à-dire pas seulement de tout pourri, mais de tout peuple. Le conte, c'est-à-dire les contes au clair de la lune autour du feu n'est pas négligeable. Donc voici pour ce qui est des jeux au sein du pays tout pourri qui se font au clair de la lune. Il y en a d'autres qui ont été créés, mais dont la portée n'est plus grande parce que le modernisme est en train d'anéantir petit à petit cette culture des jeux en pays tout pourri.
Monsieur, vous parlez des contes et quelle est très souvent la portée de ces contes narrés? Sont-elles éducatives, morales ou simplement ludiques?
Alors merci, les contes en pays tout pourri, c'est toute une leçon de vie. Les contes qui sont généralement dits autour du feu, rassemblant les anciens du village, les jeunes gens qui veulent bien apprendre de la sagesse, des patriarches se retrouvent autour du feu généralement les soirs, et ces contes dits par les anciens, les mythes, sont cachés de la vie quotidienne. Donc ces contes ne sortent pas sans donner une leçon. C'est toute une école en fait. C'est toute une école où on apprend à le vivre ensemble. C'est vrai que généralement on utilise des animaux ou bien des choses non existantes pour signifier ce. Mais dans la logique, nous avons et savons que le conte ne peut pas sortir sans produire d'effet. Un conte ne peut pas être dit sans qu'on puisse tirer des leçons. Donc, à l'issue de chaque conte, il y a des leçons de vie qu'on retient. Il y a de la sagesse qui augmente parce que bien après, il y a des explications que ces anciens donnent. Vous voyez, on reste calme autour du feu et on écoute le sage parler avec des orientations. Donc, on ne peut pas dire que ces contes sont juste des séances de divertissement. Non, il y a une véritable leçon de vie qu'on tire de ces différents contes-là.
Et lorsque vous vous retrouvez, monsieur au clair de la lune, y a-t-il à manger? Si oui, qu'est-ce que vous mangez?
Pour ce qui est des repas, parce que généralement, on se retrouve après avoir mangé. C'est-à-dire, à l'issue du dîner, comme vous aimez à le dire dans le jargon français, à l'issue de cela, on va donc se retrouver généralement chez le plus âgé, le grand sage du village. Alors, pendant cette rencontre, toute personne qui assiste peut décider de venir avec, ne serait-ce que les amuse-gueules, les arachides et autres, parce qu'on vient juste de manger, mais on s'assoit, ça peut être du sésame, ça peut être des pois de terre, ça peut être tout ce qui peut se grignoter autour du feu, dont la communion, le partage. Vous voyez, ce sont toujours des leçons issues de cette séance de comptage. Donc, il n'y a pas un repas particulier, mais à l'occasion des amuse-gueules pour un partage, et ça peut être la bouillie, hein, faite par la femme du grand sage, parce que on dit chez nous, en tout pourri, que Warira Osejitinga. Donc, à chaque occasion, un homme ne peut pas dire que non, là, je suis dépassé, je ne peux pas subvenir aux besoins présents pour accueillir les étrangers. Ça n'existe pas. Il y a toujours la dernière touche, la dernière balle, la dernière idée pour ne serait-ce qu'avoir quelque chose à grignoter, quoi que soit plus petit.
Parlez-nous à présent, monsieur, du Waiwa. Quelle est la symbolique de cette danse chez l'homme tout pourri?
Le Waiwa, c'est une danse. C'est vrai, une séance de danse et de chant, c'est vrai. Mais culturellement, le Waiwa est pour la plupart des temps compris, hein, appréhendé comme l'essence même de la culture tout pourri. À côté du Gourna, bien évidemment. Cette activité, si on peut dire ainsi, est très très bénéfique, est source de beaucoup de bénédictions. Parce que le Waiwa, pendant une période bien déterminée, vous allez vous rendre compte que on n'exécute pas les chants de Waiwa, on ne danse pas du Waiwa, mais viendra dans un moment, il y a une logique, voyez, il y a une logique pour ce qui est de cette activité du Waiwa. Hein, comme on aime bien l'entendre, hein, qui est pour l'amateur un diversement, mais au fond il y a beaucoup de leçons à retenir, parce que prenons par exemple la mélodie n'est pas un fruit du hasard. L'apprentissage des chants du Waiwa ne se font pas de façon hasardeuse. Il y a tout un protocole, et dans ces chants, dans ces cantiques du Waiwa, nous allons retrouver des expressions fortes qui ont marqué la vie de la communauté tout pour tout entière pendant un pas de temps. Et vous allez voir que ces séances d'apprentissage qui se font généralement entre mi-août et mi-septembre sont déjà dans la chronologie les préparatifs de la fête du coq, voyez, et qui généralement commence en octobre. Donc, entre mi-août et mi-septembre, parce que chez le tout pourri, le mois dans le calendrier tout pourri est celui à tampon entre deux mois dans le calendrier grégorien. Donc, ces séances d'apprentissage des chants, qui sont pour la plupart aussi attrayants, qui peuvent être considérés comme une séance de divertissement au clair de la lune, parce qu'on le fait le soir aussi. On fait le soir après avoir mangé. Ah, des personnes se retrouvent avec beaucoup d'expressions qui sont généralement soit des dénonciations, ou bien des compliments à l'endroit d'une personne de la communauté qui a fait quelque chose d'exceptionnel pour la communauté. On doit donc le magnifier, on doit exprimer la reconnaissance du peuple tout pourri à cette personne-là à travers ce chant qui va parcourir des contrées et des contrées. Ça ne reste pas juste dans un seul cadre. Et il y a aussi la dénonciation des séances, des circonstances que je vais dire malheureuses, entre guillemets, des cas de honte. Donc pendant les fêtes, il faudra faire savoir à tout le monde que Monsieur X est peut-être on va dire ça, tombé dans une impasse, voyez-vous, une impasse. Il faudra dénoncer ces manœuvres là ça peut être un cas de vol, ça peut être un cas d'inceste, Il faudra clamer haut ces faits qui minent la société, ces faits qui matent la société pour que de telles circonstances ne reviennent plus au lendemain. Voyez-vous, donc quand on expose ces personnes par leur nom, leur village et tout, et les actions qu'ils ont menées, négatives pour la société tout pourrie, négatives pour la société toute africaine, toute entière, donc ces personnes sont souvent exposées et de là, on comprendra que le Waïwa véhicule non seulement un message de divertissement, mais il y a beaucoup de choses qui se cachent en dessous.
Vous nous rappelez à quel moment de l'année se passe le Waïwa?
Merci. Le Waïwa, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, est fonction de phase. Il y a la première phase qui est l'apprentissage des chants qui commence entre août et septembre. Je disais tout à l'heure de parler de mi-août et mi-septembre. Et maintenant, pendant la fête du coq proprement dite, à chaque fois qu'une communauté, parce que la fête du coq, elle est graduelle. Elle commence par le chef suprême de Tupuri, Wang Doré. Après, elle descend graduellement en fonction des réalités culturelles. Donc, on ne fête pas la fête du coq au hasard. Il y a une logique à suivre. Et pendant que chaque communauté particulière fête, il y a donc cette séance de danse. Vous voyez, de danse, c'est une séance d'expression de remerciements à l'endroit de Dieu, des dieux et des ancêtres. Vous voyez, des ancêtres. C'est pendant ces moments-là, de la fête du corps ou bien d'autres activités quelconques tout au long de l'année et vont aller s'estomper à l'arrivée des premières pluies pour recommencer encore le processus pendant les préparatifs de la fête du coq. Donc, pour me résumer, le Waïwa est dansé. Voyez, les séances de Waïwa commencent généralement entre mi-août et septembre. Parce que c'est déjà les remerciements à Dieu pour les récoltes. En fait, c'est la période de récolte en pays tout pourri. Donc, c'est la base de tout le monde est content, en fait.
Et comment les chansons du Waïwa sont-elles composées?
Les chansons du Waïwa, j'aime à dire les mélodies du Waïwa ne sont pas les fruits du hasard. Je disais tout à l'heure que le Waïwa, du moins la mélodie, est une inspiration des grands sages, des grands artistes musiciens en pays tout pourri. Donc, ce n'est pas n'importe qui va se lever un de ces quatre-là pour dire que je compose un chant de Waïwa. Non, ça ne se fait pas. Alors, le Waïwa, la mélodie du Waïwa est fonction des activités, des bienfaits et des actions de regret que la communauté a connues pendant un pas de temps. Donc, dans la mélodie, on retrouve souvent l'expression, ou du moins la reconnaissance suite à un mérite d'une personnalité tout pourrie. Pas dans le cadre de la profession, mais quelqu'un qui a fait du bien. Ça peut être que cette année-là, il y avait peut-être une disette, parce que les disettes, c'est généralement en juillet et août. Il y avait tellement une disette que quelqu'un de la communauté avait emmagasiné plus de 1000, mais il procède à une distribution. Le vivre ensemble. Et cette personne peut être reconnue officiellement par la communauté comme un bienfaiteur. Et dans les chants, dans la composition des mélodies, on peut donc dire ne serait-ce qu'un mot de remerciement à cette personne. Donc en exécutant le chant, tout le monde sera en train de remercier cette personne. Aussi, des immoralités, des faits qui minent la société doivent être dénoncés. Vous voyez, si vous êtes une personne qui passez votre temps à voler, je ne sais pas, vous passez votre temps dans les immoralités sexuelles, les agressions et l'inceste, on devra aussi te dénoncer dans la mélodie dont tout le monde, en exécutant, va pousser personne indexée à avoir honte et à ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Et du coup, c'est une sensibilisation dans toute la communauté. Donc, la mélodie tient vraiment des bases solides, des souhaits, un peu comme des vœux pour l'année qui commence. Parce que le début de l'année, c'est en octobre. Donc, la bonne année en pays Toupouri, c'est à partir d'octobre.
Et lors des danses, l'on constate généralement que les garçons vont chercher les filles. Qu'est-ce que cela signifie?
Vous savez, les garçons vont chercher les filles. C'est normal. C'est une expression culturelle. C'est comme pour dire que la femme, pour qu'elle soit dans son foyer, c'est pas un fruit de hasard. Et vous allez le constater pendant les cadences, quand un homme se retourne vers une fille, celle-là va s'accroupir, s'abaisser. C'est l'expression du respect. Ou alors on va vers cette fille, on la fait passer devant au rythme au pas du tam-tam et des mélodies. Cela, c'est simplement pour dire que c'est l'homme qui a le pouvoir d'aller chercher la femme pour fonder un foyer. C'est pas l'inverse. Donc, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans la société moderne, tout est programmé, tout est stratifié en pays tout pourri. Donc, ce simple geste est un symbole très, très grand dans la culture tout pourri.
Parlez-nous des activités du gourna, le soir au village.
Le gourna, à côté du waïwa, qui est aussi le gourna, vraiment, c'est une danse très, très appréciée. Une danse de guerrier en pays tout pourri. Mais je vais faire une petite déclinaison ici en statuant sur le fait que le gourna peut être compris de deux façons. D'abord, c'est un lieu de rassemblement d'un groupuscule de personnes, d'hommes qui se détachent et choisissent un lieu approprié pour camper les vaches à lait. Donc, ce lieu-là est appelé gourna, où ces hommes restent à longueur de journée sous un grand arbre pour partager, pour jouer ensemble, pour prendre des décisions même pour la communauté. Et les personnes, dans le processus de partage, chaque famille va amener peut-être 1-2 boules de couscous pour qu'on puisse pétrir avec du lait frais. Donc ce lieu est appelé aussi gourna, Djak gourna. Et ces personnes-là prônent la sainteté, parce que là-bas, on ne vole pas, on ne boit pas de l'alcool, ces personnes ne consomment pas de l'alcool, ces personnes ne médisent pas. Donc c'est un lieu d'expression de la sainteté. Et d'autre part, le gourna est aussi appréhendé, pour la plupart des cas, comme cette danse mythique, cette danse de guerrier, cette danse qui est l'expression même de la force, de la détermination, de la douceur. Et dans la cadence, le rythme, on va doucement. Donc c'est l'expression de cet ensemble de valeurs, voyez, de valeurs qu'on attribue au peuple tout pourri.
Que représente la danse gourna pour l'homme tout pourri?
Comme je le disais tantôt, c'est cette danse-là, à travers cette danse et les chants, le peuple tout pourri exprime une fois de plus l'une de ses valeurs éthiques et culturelles les plus profondes. Voyez? Et comme je le disais, c'est cette danse qui, pendant sa mise en scène, expose aux yeux du monde que le peuple tout pourri est un peuple de guerriers. Vous allez voir, quand on le danse, c'est avec des gros bâtons, c'est avec des lances, c'est avec des arcs, donc des armes de guerre. Et c'est aussi dans ce rythme qu'on retrouve la noblesse, la douceur du tout pourri. Pour ceux qui pensent que le tout pourri n'est pas doux, il est si doux. Voyez-vous, pendant la cadence, on y va doucement, en rythme près. C'est donc on ne sautille pas trop, pas ça. C'est l'expression, cette danse est l'expression de la force du tout pourri. On voit les gros tambours de pratiquement 200 kg portés par une seule personne, qui souvent pèse même moins de 50 kg et qui fait pratiquement 1h ou 1h30 en train de jouer de ce tam-tam. Voyez, tout cela, le gourna est pour le peuple Tupuri l'expression de ses valeurs les plus intrinsèques. Peuple de guerriers, peuple de douceur, peuple de force, d'assurance et tout ce qui va avec.
Parlez-nous de votre association. Comment ça se passe? Quelles sont les activités menées?
L'association que je vais présenter ici est une association plus ou moins jeune parce qu'elle est, mise sur pied depuis les années 2017. L'association Tupuri, parlons-en. C'est quoi Tupuri, parlons-en? L'idée de création de cette association est partie d'un jeune frère qui, à l'époque, était étudiant à l'université de Bamenda, où il était question, lors de leurs travaux, demander de faire un exercice sur les valeurs de la langue. La langue, donc les différentes déclinaisons en langue, dont chacun devrait travailler dans sa langue. Donc, il était buté parce que tout autour de lui, il ne pouvait pas avoir un patriarche qui puisse lui donner les différents, parce que c'est très, très difficile l'écriture de la langue Tupuri. Donc, l'idée est partie de là, parce qu'il a tellement bataillé. Il ne voulait donc plus que aucun de ses cadets ne puisse tomber dans le même piège. Donc, d'où l'idée de créer d'abord un forum où on devrait faire des échanges et mettre sur pied petit à petit ce que nous appelons aujourd'hui l'association Tupuri, parlons-en. Donc, l'objectif premier, l'objectif central de l'association Tupuri, parlons-en, c'est la promotion des valeurs culturelles africaines en général, mais celles du peuple Tupuri en particulier. Ça, c'est l'objectif général de Tupuri, parlons-en en abrégé, TPE, qui aujourd'hui est déjà représenté à l'extérieur par la diaspora, partout en Afrique. Et il y a une antenne dans chaque région du Cameroun. Souvent même, on accorde, pour ceux qui sont plus loin, à un département, une antenne aussi. Donc, l'objectif global, comme je l'ai dit ici, c'est la promotion des valeurs culturelles Tupuri. À côté de cela, il y a des objectifs spécifiques, la promotion des valeurs du patrimoine culturel, les us et coutumes, et l'organisation même des tables rondes. Là même, ce sont déjà les activités, l'organisation des tables rondes pendant les périodes de rencontres. Maintenant, puisque tout le monde ne peut pas être au même lieu, au même moment, dans les différents fora, que ce soit WhatsApp, Facebook, Telegram et bien d'autres, il y a des rubriques qui nous permettent de communier. Nous avons les séances de soir au village. On compte, ça peut être des audios, ça peut être des vidéos, ça peut être tapuscrit, donc les comptes soir au village. Nous avons ce qu'on appelle moi parging, ça veut dire femme dans la cuisine de façon littérale. Et pendant ce moment, nous sommes amenés à valoriser les mets traditionnels Tupuri. Donc, on va choisir une personne, peut-être en matinée, généralement c'est les dimanches, on choisit une personne à la veille, on dit demain, tu vas entrer dans la cuisine, tu vas préparer tel mets. Donc, pendant qu'elle est en train de préparer ce mets chez elle, au fur et à mesure, elle fait des photos et elle l'explique étape par étape. Et elle répond aux questions des uns et des autres. Ceci pour la promotion de la culture. Il y a d'autres activités, des kermesses qu'on peut organiser. Il y a chaque matin ce qu'on appelle retour aux sources, où on prend peut-être 4-5 mots qui sont souvent polysémiques, on poste dans le groupe, chacun, par ce qu'il a appris, devra donner les explications approfondies, ses expressions, question d'initier aussi ceux qui ne s'en sortent pas dans la langue, dans le parler, dans l'écrit de la langue Tupuri, parce qu'il y en a aussi dans les différents groupes. donc va s'y présenter de façon un peu plus ramassée. Il y a d'autres activités qui sont aussi menées dans l'association.
Bien, monsieur, l'opinion publique a tendance à dire que l'homme tout pourri bat très souvent sur la femme. Est-ce que cette tendance fait partie de la tradition tout pourri?
Vous savez, oui, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Vous voyez, on ne va pas empêcher quelqu'un de dire quelque chose, surtout ce qu'il pense profondément. Alors, à la question de savoir si ce que l'opinion dit du peuple noble tout pourri sur le traitement de la femme est un pur mensonge ou bien est une réalité qui est ancrée dans la tradition, je vais répondre par la négation. Non, aucune ligne de la tradition tout pourri ne donne aisance à un homme de porter main sur la femme, plutôt de protéger sa famille. Étant donné que la femme fait partie de sa famille, alors il est difficile pour un homme, je parle de façon générale, il est difficile pour un homme de porter main sur sa femme. J'aurais souhaité même qu'on parle aussi de la dot, parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de mieux justifier le fait que la femme est un être protégé de l'homme. Vous pensez que quand on dit la dot est chère en pays tout pourri, on demande 15 têtes de bœuf, on demande des chèvres, c'est pas pour rien. On le demande pas. C'est culturel. Il faut que vous, en tant qu'homme, vous exprimez votre attachement à cette femme. Vous exprimez votre reconnaissance à cette famille en donnant plus. Est-ce que la femme est à la valeur des bœufs? Non. Mais il vient humblement dire que je donne tout ce que j'ai pour avoir votre fille. Vous pensez que quelqu'un a pris 15 têtes de bœufs, donné des chèvres, il prend la fille d'autrui, il vient encore battre sur elle. Vous pensez que c'est normal? Il n'y a pas une logique. Non. Il est protecteur de sa famille. Mais dans toutes les sociétés, je ne vais pas seulement me limiter à la société africaine, est-ce que la violence n'existe pas? Allons en Europe, il y a des divorces, il y a des viols, il y a tout cela. Revenons en société africaine. Quel est le peuple qui va me dire aujourd'hui que non, chez eux, on ne porte pas main sur une femme? Il y a toujours des cas d'égarement. La colère, elle n'est pas, il n'est pas donné à tout le monde de contrôler sa colère. Ça peut arriver que non, pour une petite faute là, on ramène la femme sur le droit chemin. Mais pas à dire que c'est une pratique qui est autorisée par la tradition ou la culture, la grande culture des nobles tout pourris. Je ne pense pas.
Bien, monsieur, pour finir cet entretien, peut-être un mot à l'endroit de la communauté tout pourri qui vous écoute.
Alors, à tous les tout pourris déjà, qui ne s'en sortent pas, langue, je vais parler pour eux en français et je vais finir en tout pourri, qui est d'ailleurs la plus belle langue, je veux dire, devant même les langues étrangères. Je vais encourager les uns et les autres d'aller souvent au village ou de profiter de la présence d'un oncle, d'un ami ou d'un voisin qui est tout pourri pour apprendre la langue. Parce que c'est très très important, c'est un aspect de la culture, le parler, la langue. Je pense qu'il y a RDT, Réseau Tout Pourri Taïsekanara, qui a initié une formation les vacances passées où des gens étaient engagés à venir de Douala, de Yaoundé, juste pour apprendre en 2 mois la langue tout pourri. S'intéresser aussi aux activités ludiques de la culture tout pourri. Faut pas seulement laisser nos enfants devant les écrans télévisés pour sortir occidentalisés. Alors je vais dire aux uns et aux autres de continuer à tenir plus haut le flambeau du peuple tout pourri. Ah, Kauri Wondi, moi, je suis un homme qui a été pour moi. Merci, bon, bon, oui. Dagana, moi, je suis un homme qui a été pour moi. na din jarmaga gopil kara balati la isomeno daga na mai dau kara do husukti kara lai na dau ke do jam jam ninga ja ngaba ma buimu da warma di eldin sina na fer tisirna maga junawo nuga waiwa gurna lele karang di fo maga harake maga jonra bon bon bui daga namu daura kai ji maga yang de nen yer gitbeno am yer gotbe di l2 nen ga wirna murna ha piltum daga jonri se ga jonra genina daga mai o pil tumching ni jong suse gonda bon bon bui tu suse ba.
Monsieur Bayan Lifna Daniel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Tout comme l'association Tout Pourri, parlons-en, la communauté Tout Pourri de Ourotier des Ilans œuvre également de toute énergie dans la promotion de la culture Tout Pourri. Pour en savoir davantage sur leur organisation, écoutons cet entretien avec M. Wang, président de cette communauté.
Monsieur, vous êtes le président de la communauté Tout Pourri de Ourotier. Dites-nous, comment ça se passe au sein de votre communauté? Quelles sont les activités que vous y meniez?
Les activités que nous menons, c'est avec de vieux. Chaque fois, et s'il y a des problèmes dans le quartier, et chaque fois quand il y a deuil, quand il y a des problèmes, on se réunit de vieux, de jeunes, et on essaie un peu de causer comment aider cette personne autant de joie ou de problèmes. Et en saison pluvieuse, on essaye un peu d'arranger le quartier, là où l'eau reste, là où le moyeu est en train de casser, là où l'eau ne peut pas passer, on dirige donc la route de l'eau.
Vous avez juste parlé des vieux. Qu'en est-il alors des jeunes de cette communauté?
Des jeunes de cette communauté, eux aussi, ils ont leur travail. Quand le chef les appelle, je dois aussi leur donner leur travail. Ils ont beaucoup à faire, plus que de vieux. Souvent, ils donnent aussi des coups de main aux vieux et à moi-même. Ils nous aident aussi beaucoup.
Quand est-ce qu'a été créée cette communauté et quelle était l'idée fondatrice?
Bon, la communauté Tout Pourri a été créée depuis. Ça peut faire 35 ans. Ça a été créé parce qu'il y avait eu des problèmes entre Tout Pourri et Guisga. Il fallait donc un représentant de Tout Pourri et un représentant de Guisga pour donc calmer cette affaire. Et c'est resté que chaque ethnie doit avoir un représentant. Donc la communauté Tout Pourri a été créée à base de ce problème.
Monsieur, est-ce que les jeunes présents dans votre communauté occupent aussi des postes au sein de votre bureau?
Bien sûr, ils occupent de postes. Même le secrétaire est un jeune. Bon, le trésorier est un jeune. L'envoyé est un jeune. Mais ils ne peuvent pas juger parce qu'un jeune n'a pas de sagesse comme un vieux. Mais sinon, ils ont leur poste, ils ont aussi leur travail, sein de communauté Tout Pourri.
Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre communauté pour la promotion de la culture Tout Pourri?
Bon, pour la promotion de la culture Tout Pourri, les jeunes de maintenant, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas parler leur langue. Qu'est-ce qu'on fait? Autant de réunions, on conseille les parents de causer avec les enfants à la maison en Tout Pourri et les envoyer au village pour qu'ils apprennent à causer Tout Pourri, on ne sait jamais demain. Parce qu'il y en a beaucoup ici dehors qui ne connaissent même pas là où ils sont. Les villages, c'est où ils ne connaissent pas. Et à chaque fois qu'on a le thème de la réunion, c'est ça qu'on envoie chaque jour. Causer avec les enfants en langue, à la maison. Et au temps de vacances, il faut envoyer les enfants au village pour apprendre les langues.
Parlez-nous à présent de la fête du coq chez les Tout Pourris.
La fête du coq chez l'homme Tout Pourri, c'est un peu comme l'anniversaire. C'est un peu comme se rappeler de parents qui sont partis. Mais il y a certains gens qui disent que la fête du coq, c'est de se fêter, adorer un mauvais esprit. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose que nous avons trouvé depuis nos parents. Si La fête du coq est quelque chose qui est mauvais, dont même la langue tout pourrie. Nous n'allons pas aussi causer. C'est la tradition. C'est ce que nos parents nous ont laissé. Et quand on fête la fête du coq, on prie. C'est le nom de Dieu qu'on appelle. C'est le nom de Dieu qu'on le demande pour qu'il doit élever nos enfants, pour qu'ils deviennent des hommes. C'est le nom de Dieu que nos parents nous ont laissé, que Wang Dore prie, qu'on doit être dans la paix, en santé, et que nos enfants doivent comprendre que l'homme tout pourri sort d'où. La fête du coq, ce n'est pas une fête d'un mauvais esprit, non, c'est la tradition. Et c'est le nom de Dieu que tu pries. Quand on arrête le coq en main, tu appelles le nom de ton Dieu, parce qu'il t'a donné 365 jours en paix et sans problème, et tu dois le remercier. C'est sous forme de l'anniversaire. C'est ça la fête du coq. C'est pas un mauvais esprit. C'est la fête que nos parents nous ont laissée.
Voilà, monsieur, pour clore à présent avec cet entretien, peut-être un mot à la communauté tout pourri qui vous écoute.
Nous avons fait un jour sur le monde. Nous avons fait un jour sur le monde. Nous avons fait un jour daga na hay bakti barli na jar kluruno tay giti yango daga na hay jongne na hay daw doze kar kai na hay me karwa huli jong daga na hay ir karta ani jong su sendai jedi pour dinje dakaw jedi pour dinje maga dare son recebega jedi pour dinje ele daga na hay daw doze kar kai dindi wan wuro ceden jong su sendai.
La Constitution du Cameroun reconnaît comme langue officielle le français et l'anglais. Le Cameroun est un pays riche en diversité linguistique. Les langues parlées dépendent ou varient d'un milieu à un autre, d'où le phénomène de l'argot. De plus en plus, les jeunes ont du mal à s'exprimer couramment en français et ou en anglais, du fait des langages tels le camfranglais, le francanglais, le francafoulbé et bien d'autres. Écoutons quelques avis du public à ce sujet.
À mon avis, je dirais que le phénomène de parler plusieurs langues à la fois, c'est-à-dire l'anglais, mélanger l'anglais, le français avec le foufoulde, voire d'autres langues, est un moyen de communication bon, adapté par nous, les jeunes, voire en fonction du milieu aussi, pour pouvoir véhiculer l'information. Tant que l'information passe, c'est une bonne chose, à condition que ce phénomène soit utilisé à bon escient. Donc, à mon avis, je dirais que c'est une bonne adaptation aussi pour faire passer l'information.
Dans la société, nous, on se promène, on cause comme on cause, parce qu'on sort avec les langages familiers de nos bouches. Et or, surtout dans notre région, quand tu parles plus le foulbé, des fois, quand tu parles le français, tu ne connais même pas un mot en français, tu es obligé de lancer ce mot-là en langue familière, en langue maternelle, soit en foulbé, soit même en moufou, parce que nous, quand tu parles même ton patois à la maison et que tu te retrouves avec tes oncles qui te parlent en français ou bien qui te parlent en patois, des fois tu ne sais pas parler même la langue là jusqu'au bout, tu es obligé de mélanger ça avec le français ou bien avec le foulbé.
Par rapport à mon avis sur le camfranglais, je dirais d'abord que c'est le mixage entre la langue anglaise et francophone. Mais lorsque vous me demandez mon avis sur le francanglais ou le camfranglais, je disais que c'est d'abord par rapport au milieu dans lequel on se trouve. De nos jours, sont concentrés sur cette langue qui est même un impact pour la société dans la mesure où parfois nous sommes confrontés à certains concours et autres, certaines épreuves. Parfois nous oublions même la société dans laquelle nous agissons, en souvent dans des débats, nous sommes confrontés toujours à remettre en cause ce phénomène. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle est devenue comme une source d'aliénation, parce que même dans nos études, nos débats, nous sommes souvent confondus en utilisant même ces langues, tout ça en oubliant que c'était une langue seulement de contrainte, de parcours, d'amitié, de camaraderie et autres.
Le panier de la ménagère souffre depuis quelque temps. La hausse des prix des denrées sur le marché met les ménagères dans tous les états et paralyse l'activité de certaines commerçantes. C'est avec des paniers vides qu'elles se sentent confiées à nous. Vide ton sac, c'est dans un court instant.
Je vends la viande est chère. Le kilo c'est 2200 ou 2400 parfois et on ne s'en sort pas. L'huile, 1500, tu vois les condiments, tout est cher. Donc les clients se plaignent et même les acheteurs comme nous là, on n'a même pas de bénéfice. On passe le temps juste. Donc ils doivent voir quelque chose par rapport à ça. Il faut que le délégué du commerce voie ce qu'il peut faire par rapport aux commerçants. Parce qu'il faut que ça soit sérieux, parce que ça ne va plus dans les foyers même, ça ne va plus. On divorce même les femmes à cause des trucs, les maris divorcent les femmes, ils disent que les femmes bouffent leur argent. Le pain coûte 150 ailleurs, 125. Et un maigre pain, tu vas manger pour combien? Un pain, tu pouvais manger avec deux personnes. Maintenant, toi seul même, tu n'arrives pas à manger un pain. Il faut qu'ils voient ça. C'est sérieux. Tout le monde n'a pas l'argent.
Sur le marché, au niveau de Marois, le panier de la ménagère est très cher. Tout est cher, tout est difficile. On ne s'en sort même pas, les ménagères ne s'en sortent pas. Parce que le moment est dur pour les femmes. Mais on ne s'en sort même pas. De tous les moyens, on ne s'en sort pas. L'huile diamant or, vraiment, alors c'est fort. On est au niveau de l'extrême nord, on ne comprend plus. Il y a l'usine, il y a la saut de coton. On cultive coton au niveau de l'extrême nord. Mais l'huile diamant or, c'est plus que la taille des gens. On ne reconnaît même plus. Normalement, l'huile diamant or, on devait mettre 1000 francs le prix de l'huile diamant or. Mais l'huile diamant or, maintenant, on ne trouve même pas sur le marché. Pour trouver, il faut les acrobaties. Il faut par connaissance. Tout se passe ici par connaissance au niveau de l'extrême nord. Quand tu ne connais pas, tu n'auras pas. C'est ça, ma fille.
Les choses sont super chères au marché. Les légumes, la viande, l'huile, tout est devenu cher. Même le pain même a augmenté. On ne sait plus comment on va faire.
Pour le panier ménager, vraiment, ça n'en va pas. Ici, peut-être on nous a oublié ici à l'extrême nord. Tu passes sur le marché avec 2000 francs, tu rentres avec le panier vide. Donc, nous sommes égarés à nous-mêmes. Exemple par rapport à l'arachide. Une tasse d'arachide, c'est 1000 francs. Un kilo de viande, c'est 2000. Donc, on ne peut rien faire. Même à la maison, on n'a rien. Pardon, nous sommes égarés à nous-mêmes. Il faut que le ministre doit voir ça.
Les choses sont devenues trop chères au marché. On ne s'en sort même plus un peu. Avant, j'ai payé les têtes de bœufs, 6 000 au complet. Maintenant, on parle de 10 000, 15 000. Tu viens, ton capital même ne sort même pas. Demain, tu ne sais plus quoi ce que tu vas faire. Tout est devenu cher. Le condiment qui était avant moi, tout est devenu cher. Le légume, même pour la sauce, même 200, j'ai mangé. Maintenant, 400, 500, je n'arrive même pas toujours à rationner avec ça.
C'est l'état qui fait quelque chose pour moi. Vraiment, je pars au marché et j'achète ce que je fais. Tout, ça me suffit. Mais maintenant, 1000 francs que je pars au marché avec, ça ne suffit pas. Et je reviens à la maison, mon mari me demande pourquoi les 1000 francs ne suffisent pas. Et je lui dis que toutes choses sont devenues chères au marché, même les légumes là. Pour 200 avant, je peux manger dans ma famille, mais maintenant, ça ne suffit pas. Vraiment, on ne sait comment faire dans la vie. Si l'État peut faire quelque chose pour nous.
Voyager, c'est aimer découvrir et apprendre. C'est se rendre compte que les cultures sont toutes belles et riches. Ce voyage d'interligne dont nous venons d'arriver à destination nous a plongé dans la culture tout pourrie. C'était dans le cadre de la rubrique « Soir au village ». Dans Tape à l'œil, le phénomène de l'argot a été mis à nu par des avis divers du public. Et dans « Vide ton sac », nous étions en voyage dans le panier des ménagères. Merci de nous avoir suivis. Interlignes, ce sont les lignes de notre quotidien. Il y avait pour vous servir Maxino à la partie technique, David Bayan à la coordination générale et dans ce studio, l'idole Wawa. Souvenez-vous, la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.